France Inter.
Les combats sont tellement forts que je me dis que je ne survivrai pas à cette guerre. Cette révélation devient une résolution et je m'en trouve plus tranquille, plus calme, moins triste. Je me tchétchénise. Comme eux, je me sens virtuellement mort, donc affranchi de tout lien social. Ils ont décidé de faire le sacrifice de leur vie, de rompre avec l'autre monde. C'est en guerre que je traverse tranquillement ces orages de métal en fusion. Il tire, je cadre. Il court, je décadre. Patrick Chauvel est ce soir notre invité, à la fois photographe, écrivain, cinéaste, rapporteur de guerre. C'est le titre de ce récit dont j'ai tiré quelques phrases. Mais comme chaque soir, nous allons commencer en musique. Et puisque c'est mardi soir, et puisque Patrick, vous êtes en direct ce soir, eh bien, on va commencer avec quelqu'un que vous avez eu la chance de côtoyer et d'approcher et qui nous fait toujours du bien. Il s'appelle Bob.
Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, stand up for your right. Get up, stand up, don't give up the fight.
Alors c'est avec Bob Marley qu'on commence cette émission, grâce à vous Patrick Chauvel. Vous l'avez rencontré en Jamaïque, vous a-t-il enfumé?
Ah oui, ça il m'a enfumé, mais au-delà, comme un jambon. Quoi. Moi je fume pas parce que je tiens beaucoup à ma sainte paranoïa dans les reportages de guerre. J'ai, la peur, le danger, tout ça, ça me motive et ça me permet aussi de survivre. Donc de fumer dans ces zones-là, c'est pas un bon plan, parce que du coup, autant rester à Paris, si c'est pour ignorer ce qui se passe autour de nous. Mais il m'a dit que je ne pouvais pas le prendre en photo si je fumais pas le joint qui fumait. Seulement Bob Marley, il fume, et c'est un arbre qui fume, c'est pas un joint. Et voilà, donc à un moment donné, j'ai voulu le prendre en photo après avoir fumé deux ou trois taffes, et il est devenu tout petit. J'arrivais plus à le photographier, il était ridiculement petit. Donc ils m'ont proposé de retourner à l'hôtel. Je me suis réveillé avec plein de salades dans ma chambre. J'ai appelé la réception en disant « qu'est-ce que c'est que ces salades ?» Ils m'ont dit « vous n'arrêtez pas de commander des salades ?» Et en fait, j'avais 24 heures de retard quand je suis revenu le voir. Et je suis tombé sur un sale gosse dans son... Parce qu'il avait une espèce de compound avec des petites cases autour de sa maison coloniale. Un enfant qui devait avoir 6 ans, mais qui était déjà mauvais, visiblement, parce qu'il m'a offert des space cakes, des petits gâteaux et du thé. Et donc, il y avait des serpents qui sortaient de ses yeux après la deuxième bouchée. Donc, c'était très compliqué de faire des photos de Bob, en fait. C'était très dangereux. Mais on a parlé, on est resté 10 jours ensemble.
Pas mal!
C'était un type extraordinaire. Il était très en colère. Donc, c'est là où on s'est rejoint, dans cette colère. Il riait beaucoup, il jouait de la musique, il avait des paroles incroyables, mais il était en colère. Il était en colère parce qu'il était métis, parce que son père l'avait pas reconnu, parce que sa mère était pauvre, parce qu'il était rejeté par les Noirs et par les Blancs. Et donc il essayait de s'exprimer à travers cette musique, à travers ces paroles incroyables. Il a créé un son, voilà, qui vient de l'Éthiopie, qui vient de loin.
Qui nous fait toujours vibrer.
Bah, c'est impossible de vieillir, ça ne vieillira jamais, ça vient du fond de l'humanité, quoi. Le négus et toute cette histoire derrière, c'est profond, quoi.
Et avec Marguerite Yourcenar, que vous avez rencontrée aussi par hasard, ça s'est passé de manière aussi dangereuse?
Bah, j'étais dans un bar en train de boire un coup, parce qu'en fait, j'étais...
Ah, vous buvez, hein?
Léger. Juste ce qu'il faut. Mais de la qualité, essentiellement. Mais en fait, j'étais... aller dans un bar parce que je m'ennuyais, parce qu'en fait les élections violentes n'avaient pas été si violentes que ça. Et donc j'étais dans un bar et je suis tombé...
C'était en quelle année ?
Ça devait être les années 91. Oui, c'est ça ? Non. Non, je me trompe. 81, plutôt.
Ah, il y a eu des élections, oui, en 81. Vous
voilà,
en
donc
souvenez.
C'est 81. Voilà, je me trompe de 10 ans, c'est pas grave.
Non. Mais,
et donc, ben, il est mort depuis 10 ans à ce moment-là. Donc, et en fait, je suis dans un bar et là, il y a un amiral en blanc, chaussures blanches, magnifique, qui me propose de boire un coup avec lui. On est un peu seul dans ce bar. Et en fait, c'est un capitaine des croisières Paquet. Et il est un peu en reste d'histoire, parce que moi, quand j'ai bu un coup, je commence à raconter des histoires que j'exagère et que je... J'aime bien citer Kessel, et à la limite, j'oublie de le citer. Je m'approprie les histoires de Kessel, si possible, ou de Saint-Exupéry, en toute simplicité. Et donc, il m'explique qu'il a un personnage secret sur son bateau. Et donc, il me livre immédiatement son secret. Et je lui dis, mais attends, Marguerite Yourcenar, tout le monde la cherche. Elle vient d'être nommée à l'Académie française. Elle s'est planquée aux croisières Paquet. Donc j'obtiens un rendez-vous avec cette charmante dame qui m'explique sur le bateau, parce qu'elle est d'accord pour me rencontrer, mais pas pour faire des photos. Elle me dit « j'ai passé l'âge des photos ». Et en fait, je me retrouve interviewé par elle. Elle me demande pourquoi je fais ce métier de guerre, pourquoi je... Elle est charmante, et donc je décide de ne pas la prendre en photo, de respecter sa volonté. On boit du thé, et je quitte...
On est rassuré, vous buvez aussi du thé.
Ça a la même couleur que Louis-C, hein. Donc ça peut être trompeur, hein. Et donc je quitte, et au moment où je passe sur le côté à l'extérieur, je la vois, elle est dans le carré, il y a un espèce de grand hublot qui reflète la mer et on la voit à travers. C'est vraiment parfait. Je lève l'appareil photo sans prendre une photo et elle me fait un petit signe de tête où elle est d'accord et je fais cette photo qui a fait le tour du monde, enfin le tour du monde des gens qui s'intéressent à elle, évidemment, où on voit la mer et en filigrane on voit son visage. Et c'était tellement elle, ça.
Elle est magnifique, cette photo.
Cette femme était magnifique. C'est pas la photo, c'est elle. et le décor. Et grâce à cet amiral de pacotille qui avait un bel esprit, j'ai pu rencontrer cette femme formidable.
Comme quoi, il faut aller dans les bars, Patrick Chauvel,
bien sûr,
pour réussir sa vie.
Et évidemment, l'agent Sigma, Hubert Enroth, que j'avais au téléphone, qui m'a dit « Bon, bah, là, il n'y a pas de combat, tu peux rentrer. » J'avais dit « Mais c'est pas le pays de Bob Marley. » Il m'a dit « Non, mais ça, c'est le département du showbiz qui s'occupe de ça. Laisse tomber, il est injoignable, il a plein de villas, enfin, c'est compliqué. » Bon, j'ai pris mon chauffeur taxi, je lui ai dit on peut aller chez Bob Marley. En fait, je lui ai ramené Bob Marley et Marguerite Yourcenar. Donc après, il m'a dit tu veux aller où ? Et donc à partir de là, je faisais un peu ce que je voulais.
Alors tout a commencé par une photographie de famille, en fait, pour éveiller votre vocation. C'était quand vous étiez adolescent. Il y avait sur le buffet de la maison familiale une photographie de qui, Patrick Chauvel ? De votre grand-père.
Ah, mon grand-père qui a signé les accords de Genève avec Mendès France. Ben, ça va plus loin que ça. C'est une photo. À l'époque, ça se passait à Versoix, c'est-à-dire entre Genève et Lausanne. Mon grand-père était un diplomate et ami de Mendès France, et ça s'est fait là. En fait, moi, j'habitais avec mon grand-père. Donc, j'avais 4 ans. Et avec ma sœur, Marie-Christine, on est allé vers les grilles du parc. Regardez tous ces journalistes qui attendaient de faire une photo, impossible à faire, puisque c'était des accords secrets, en tout cas avant que ce soit fini. Et la presse suisse et internationale n'avait pas d'autres photos à faire que les petits-enfants de l'ambassadeur. Donc il y a une photo de ma sœur et moi avec l'armée suisse dans le parc derrière nous, les mains sur les barreaux en train de regarder bêtement les journalistes. Et cette photo fait une double dans match en 54.
Déjà star.
Schoendorfer me disait, tu vois, déjà l'Indochine, déjà match. Quand en 68, je fais match avec mes photos du Vietnam. Donc en fait, voilà, 1968, j'ai 18 ans, là j'ai 4 ans. C'est 14 ans plus tard, je suis toujours dans match et c'est toujours l'Indochine qu'on appellera le Vietnam à ce moment-là, mais c'est toujours la même histoire. Donc il m'a dit, t'avais pas le choix en fait.
Mais vous n'avez jamais appris la photographie. Vous avez commencé à pratiquer sur le terrain, et le premier terrain, c'était Israël.
Oui, là, c'était lamentable. Ça a été une dépantalonnade terrible. J'ai un copain photographe qui s'appelait Gilles Caron qui m'avait fait, et puis des copains de mon père qui m'avaient expliqué. J'avais une espèce de petit bout de carton marqué soleil, pluie, nuage. J'ai rien compris. Toutes les photos sont ratées, sauf deux. Où j'ai passé mon appareil photo, c'était un Leica, à un soldat israélien qui m'a pris en photo où je pose devant le mur des lamentations avec une, je crois qu'elle était lieutenant en uniforme et une petite mitraillette. Et ça, c'est réussi, il savait s'en servir, lui. Donc voilà, c'est mes premières photos réussies, sont des photos de moi faites par quelqu'un d'autre avec mon appareil photo. Donc après, je rentre à François au labo avec Lazarev comme patron pour apprendre la photo. C'est quand même un métier.
Ça veut dire quoi ?
C'est-à-dire qu'il faut apprendre quand même un peu à faire des images. Mais j'apprends toujours en regardant les photos des autres.
Encore aujourd'hui ?
Oui, il y a des gens qui font des photos formidables, comme James Nashway, comme Gilles Pérez, comme Édouard Elias. Il y a des grands photographes, donc je regarde et j'ignore leur talent, mais je regarde quand même.
Ça veut dire quoi, regarder une photographie pour vous aujourd'hui ? Patrick Chauvel.
Ben c'est de voir si la photo résume vraiment la situation et de trouver l'angle qu'a trouvé le photographe. Les photographes que je viens de citer sont vraiment des photographes. Moi, je suis plutôt de la génération de Noël Kidu, Van der Stock, Jérôme Delay. Ce sont des photographes. On est des journalistes avec un appareil photo. C'est pas pareil. On est des reporters qui faisons des photos. C'est-à-dire qu'on résume la situation, on essaye de trouver la photo qui va symboliser, qui va attirer le regard. Ces autres photographes que j'ai cités avant sont des gens qui sont vraiment des photographes presque comme des peintres. Et donc c'est les deux manières de raconter l'histoire. Il y en a une qui est un peu plus brutale, un peu plus sèche, et l'autre qui est à travers l'art. Alors il faut faire très attention, c'est très délicat, surtout dans cette branche de photos de guerre. Parce que quand on est trop artiste, on parle de soi. On parle pas des autres. Quelque part, il y a un équilibre à trouver. pour moi, une bonne photo de guerre, c'est une photo qui résume la situation et où le public peut se dire « j'aurais pu faire cette photo ». Ça le place dans l'image. Et si elle est trop artistique, ça l'éloigne de l'événement. C'est-à-dire que c'est quelque chose, c'est comme moi quand j'écoute du Brahms ou du Beethoven, j'ai une telle admiration que pour moi c'est impossible de faire ça, d'avoir créé ça. Donc si quelque chose est trop fort, trop beau, ça vous détache. Vous êtes admiratif, mais vous êtes détaché. Et je pense qu'un journaliste qui fait de la photo, qui a un appareil photo, rapproche. C'est-à-dire, si le type sent s'il avait été là, il aurait fait la même photo, ça l'amène dans l'histoire. Mais c'est un débat éternel qu'on a entre l'art et la presse, et la presse et l'art, et lequel est au service de l'un et de l'autre, quoi. Et je pense que les deux sont indispensables.
Alors, quand on voit votre travail photographique depuis plusieurs décennies et qu'on voit l'ampleur de votre œuvre, Patrick Chauvel, on voit bien que vous avez inventé un art de la photographie qui, pour reprendre l'expression de Cartier-Bresson, c'est un art de saisir l'instant, mais de pouvoir aussi délivrer les enjeux et les mises en perspective pour nous, les citoyens. C'est un art de l'éveil, un art de la conscience. C'est un art que vous diriez, vous, engagé aujourd'hui?
Oui, bien sûr. D'abord, on s'engage soi-même. Déjà, pour la première chose, hein, c'est qu'on l'événement nous arrive en pleine figure. C'est une fraction de seconde.
Les événements, mais vous allez devoir choisir une fraction de seconde des événements que vous avez traversés.
Oui, j'avais presque envie de dire que c'est l'événement qui va me choisir. C'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis sur le terrain, j'ai chaud, j'ai froid, j'ai des moments de solitude, j'ai des moments où je me pose des questions. Et puis il y a l'action, il y a le plaisir de l'action, il y a le plaisir du risque, hein, il faut pas le nier. Les photographes qui font ça, on aime l'aventure, on aime tout ça. Il faut pas rejeter ça. C'est pas vrai. C'est pas que pour raconter. C'est aussi un plaisir de vivre quelque chose de fort. Et d'un seul coup, il se passe quelque chose. Et à ce moment-là, on a ce réflexe professionnel, on va dire, de faire la photo. Et ça va. C'est un mélange de notre éducation, de tout ce qu'on a vécu avant, et c'est de la rapidité. Chez Norfer m'avait demandé de lui offrir la photo du char et du chat. Il a dit, c'est une photo incroyable, formidable. J'avais dit, oui, mais c'est un coup de chance.
Vous pouvez la décrire, cette photo, puisqu'on est à la radio.
Oui, c'est vrai. Oh, bah, écoutez, imaginez. Mais non, c'est ça la force de la radio, c'est que les gens imaginent. Mais en fait, c'est un char au centre-ville de Beyrouth, de l'armée libanaise, mais chrétienne, qui combat les musulmans au centre-ville. Et il s'est approché du centre et il a ouvert le feu. Et il devait y avoir un petit chat qui dormait à côté, qui a été un peu surpris par ce tir, et qui passe entre le char et moi. Et j'ai saisi le moment où le chat passe, un petit chat roux, qui fuit la bêtise, la folie des hommes. Et je me rappelle que j'étais pas sûr de ce que j'avais vu. Donc j'avais envoyé à Newsweek un petit mot avec les films, en disant, regardez, sur le film numéro 4, il y a un lapin, un chat ou un chien, et puis en plaisantant, ou peut-être mon âme qui a foutu le camp entre moi et le tank. Et 3 jours après, parce que ça mettait du temps à l'époque, alléluia, alléluia, c'est un petit chat, tu l'as eu, ça fait une double dans Life, une double dans Time, dans Newsweek. Enfin.
Ça veut dire, Patrick Chauvel, que quand vous prenez une photo, vous ne voyez pas forcément ce que vous êtes en train de photographier?
Non, en général, je vois très bien ce que je photographie. Là, c'est vraiment cette saloperie de petite bête. Et c'est une des photos les plus joyeuses que j'ai faites, parce qu'il sauve sa vie devant la folie des hommes. Et quand j'offre cette photo à Pierre, je lui dis, tu sais, c'est un coup de peau. Et il m'avait dit, non, c'est pas un coup de peau, c'est parce que t'es un pro, que t'as eu le chat. Sans ça, tu l'aurais vu passer, t'aurais pas appuyé. Il me dit, en fait, je dis, oui, mais c'est de la chance. Il me dit, oui, mais la chance, c'est quand le professionnalisme rencontre l'opportunité. Et tu l'as pas raté. Voilà, donc j'étais un peu à la recherche des compliments. C'était un peu raté, mais le patron de Life aussi m'avait demandé à avoir cette photo. Donc j'y avais offert et je lui ai dit, pourquoi tu la veux? Toujours pareil, je me disais, il va me dire que je suis formidable. Pas du tout. Il m'a dit, parce que chaque jour, quand je vais au bureau, j'ai envie de faire ce qu'a fait le chat. Foutre le camp. En fait, il se sentait chat. Donc j'aime bien cette photo parce qu'elle est positive. En fait, c'est un animal qui fuit la folie, quoi, et qui s'en sort.
Vous avez, pendant plus de 4 décennies, Patrick Chauvel, vécu sur les fronts de guerre, dans tout l'univers. Et quand on lit vos 2 livres, Les pompes de Ricardo Jésus et Rapporteur de guerre, c'est vous qui avez inventé cette expression qui est très belle, on a l'impression que petit à petit, sans même vous en rendre compte, le danger vous habite et la nécessité de repartir devient nécessaire. Pourquoi ?
Bah parce qu'on est trop protégé dans cette société aujourd'hui. On est même obligé de mettre un casque en trottinette.
Ben oui, heureusement qu'on met des casques en trottinette. C'est très dangereux, les trottinettes.
Oui, mais pourquoi faire de la trottinette à nos âges ? Non, mais je sais pas. J'ai besoin d'être en danger, quoi. Je me suis marié, quand même.
Mais en danger de quoi ? De mort ?
En
ou
danger...
d'excitation de la guerre ?
Non, la guerre, c'est pas excitant, c'est déprimant même. Il y a quelque chose de banal hein, dans la guerre. Hein. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. C'est Hannah Arendt, la banalité du mal. Non, c'est pas ça. C'est ce qui est extraordinaire dans ces situations, c'est la volonté des hommes et des femmes et même des enfants d'avoir cette force de vie où les gens survivent malgré tout. Malgré les dangers, cette générosité qui apparaît par moments, ce courage qui ressort. Parce que, bon, évidemment, on connaît tous les malheurs de la guerre, mais dans la guerre, à l'intérieur du phénomène guerre, vous avez quand même des gens qui se révèlent. Il y avait un type au Liban qui s'appelait... c'était un pharmacien. Et il avait une pharmacie côté chrétien, il était un peu en surpoids, très gentil, tout le monde l'adorait. Et à un moment donné, les Syriens ont attaqué le quartier chrétien et il a sorti de son garage une Jeep avec un pick-up et une mitrailleuse lourde et il a arrêté l'offensive syrienne pendant un quart d'heure. Il est mort, évidemment. Il s'appelait Bertie, il avait la pharmacie Bertie à Achrafieh. Pendant un quart d'heure, il a combattu tout seul. En surpoids, avec sa chemise blanche et sa mitrailleuse qu'il avait achetée en douce. Il a donné le temps aux chrétiens de se rassembler et de se mettre en position pour bloquer l'attaque. Voilà, la guerre révèle les gens. La guerre révèle des talents, révèle des choses, révèle le courage. Et on peut trouver un type formidable qui va d'un seul coup craquer, un type qu'on ne voyait jamais, qui va devenir un chef de réseau de résistance. Enfin, la guerre est un révélateur, est un tueur de mensonges. Même si on dit, et c'est aussi vrai que les guerres sont la première victime de la guerre, c'est la vérité. Mais ça, je pense que c'est plutôt après la guerre, quand on raconte l'histoire. Mais moi, ce que je cherche dans la guerre, c'est l'homme poussé à bout. Je me pousse à bout et je vois les hommes pousser à bout et je d'un seul coup il y a plus de mensonges possibles. Il y a le courage, la lâcheté. Il y a des gens qui font des choses incroyables à la guerre. Toi. Et puis c'est des gens qui se battent jusqu'au bout pour leurs idées, qu'elles soient justes ou mauvaises. Alors qu'ici dans le monde de la paix, je vois pas mal de gens qui s'en sortent avec des petites lâchetés. C'est un peu triste, quoi. Il faudrait. Non, mais la paix, c'est formidable. Hein. Je suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais je veux dire qu'il faudrait un peu plus de tenue, quoi. Qu'on soit un peu plus responsable de nos actes. À la guerre, quand vous vous trompez, c'est dramatique.
Ce qui semble vous intéresser, et ce depuis longtemps, Patrick Chauvel, c'est justement le pouvoir de résistance des êtres humains à l'horreur. À l'horreur et leur faculté à pouvoir résister. Il y a peu d'années, vous avez obtenu la plus haute distinction pour un film consacré au siège de Sarajevo, qui s'intitulait tout simplement Le Siège. Et ce film offre la possibilité à nous, spectateurs, de découvrir la faculté de résistance de la société civile et l'éclosion de personnalités inconnues d'elles-mêmes, de toutes ces personnes qui, pendant toutes ces années du siège de Sarajevo, ont résisté, ont résisté, ont résisté.
Ils ont résisté. Alors, d'abord, c'est un film qui a été imaginé et créé par Rémi Urdan, le grand reporter du Monde, qui m'a proposé, parce qu'il n'avait jamais fait de documentaire, de l'accompagner sur ce film. Donc, c'est avant tout un film de Rémi Urdan. Et j'ai eu cette chance qu'il me fasse cette proposition. Donc on a vécu cette aventure ensemble. C'est-à-dire que les Bosniaques ont résisté par l'humour, par l'art. Ils ont fait des pièces de théâtre, ils ont fait des chansons, ils ont vraiment résisté. Et effectivement, la décision qu'avait eu Rémi Jourdan là-dessus, il m'a dit, je ne veux pas parler de ce qui se passe autour, je veux vraiment qu'on ait le point de vue de l'assiégé et de cette résistance de la population de Sarajevo. Et c'est vrai qu'on le montre dans le film. D'ailleurs, il y avait des Serbes qui étaient restés à Sarajevo fidèles à leurs amis. Et on voit effectivement de l'humour. Enfin, il y a des moments très drôles dans le film. Et c'est ça qui est fantastique, c'est ça qui est inouï. Quand on va dans les guerres, on tombe sur des gens qui font des choses incroyables qu'on ne soupçonnerait pas. Alors, je pense que dans le monde de la paix, il y a les mêmes personnes, mais elles ne sont pas stimulées par ce danger, par cette situation extrême. Sauf dans certains cas, comme par exemple pour le Bataclan, où j'ai vu des gens faire des choses formidables aussi. C'est-à-dire, juste après le Bataclan, j'ai un ami qui s'appelle Michel Bonneau, qui était un appartement au-dessus, qui était un ancien de Médecins Sans Frontières, et que j'avais connu au Suriname, et qui soignait les gens dans la jungle, qui est descendu de chez lui. Lui, il a tout de suite su que c'était des tirs et pas des pétards, parce qu'il a l'habitude, et qui s'est mis à soigner les gens dans la rue. D'un seul coup, il est sorti de sa vie quotidienne.
Et mais c'était la guerre, le Bataclan.
C'était la guerre dans un endroit précis pendant un certain temps. J'ai un ami israélien qui est un ancien des forces spéciales, qui est devenu photographe. Il parle arabe, il parle hébreu, il a une carte de forces spéciales, donc on travaille ensemble, il y a une voiture, il parle la langue, il parle les langues. Et donc quand je vais en Israël et que je couvre l'intifada ou des choses comme ça, on part ensemble. Il m'a appelé le soir du Bataclan, parce qu'il travaille aussi pour les journaux internationaux. Il m'a dit, tu parles la langue ? T'as une voiture ? J'arrive. Je devenais son fixeur à Paris. Un Israélien qui me demande si je parle la langue et qui veut travailler avec moi à Paris. Là, je me suis dit, oula, c'est en train de se rapprocher très sérieusement. D'un seul coup, la situation s'est inversée. C'est-à-dire que moi, j'allais en Israël couvrir ce qui se passait entre les Palestiniens et les Israéliens avec un fixeur photographe israélien. Et d'un seul coup, l'Israélien m'appelle en me demandant si je parle la langue et si j'ai une voiture à Paris.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Patrick Chauvel, c'est America. On the first part of the journey, I was looking at all the life. There were plants and birds and rocks and things, there was sand. Merci pour cette chanson. Pourquoi ce choix, Patrick Chauvin ?
Parce que quelquefois, quand on parle longtemps, on perd sa personnalité d'homme civilisé, on va dire. Et on devient l'autre, on devient le copain des Afghans, le copain des Tchétchènes. On est intégré. Moi, je travaille la plupart du temps seul ou avec quelques journalistes écrits que j'aime beaucoup et qui travaillent de la même manière, comme Adrien Jaume et Rémi Urdan. En Tchétchénie, par exemple, à un moment donné, les Tchétchènes, parce que quand vous êtes seul, les gens vous intègrent. Si vous êtes plusieurs journalistes, vous êtes un groupe à part. Donc là, les types, quand ils sont autour du feu et qu'il fait moins 5, vous êtes dans votre coin, ils vous disent de venir. Alors, on s'invente une langue, parce que le Tchétchène, c'est un peu du turc à l'envers, quoi, c'est un peu compliqué, quand même. Et à un moment donné, un des Tchétchènes qui parlait vaguement quelques mots d'anglais me dit, il me demande d'où je suis. Je dis, français. Il me dit, mais encore. Je lui ai dit, mon père est breton, je lui ai dit Bretagne. Là, il comprend pas. Donc, du coup, je bascule sur ma mère, je lui dis Corse. Ma mère est Corse. Et là, ils répètent le mot et tous ont dit, ah, Napoléon. Very good. Napoléon tue les Russes. Et d'un seul coup, et après, pendant...
Vous me faites rire, excusez-moi.
Mais pas... Après, pendant tous les combats, quand je croisais une patrouille, les types disaient « Hey, Napoléon !» Et à un moment donné, je me suis dit, s'il y avait quand même des chances que ça arrive, je vais me faire flinguer, je vais être tué, ils vont m'enterrer, ils vont marquer Napoléon. Et là, il y a des historiens qui vont quand même se gratter le crâne en disant « Je comprends pas, là, comment Napoléon mort deux fois ?» Enfin, donc voilà, j'ai perdu mon nom et je me suis appelé Napoléon pendant quand même pratiquement 3 mois, ce qui est pas rien. Donc du coup, j'ai pensé à cette chanson où ce type se part dans le désert et il a un cheval qui n'a pas de nom et il oublie son propre nom. C'est ça la liberté aussi, la liberté du reportage, d'un seul coup, de disparaître en tant qu'être humain français avec toute l'éducation qu'on a et de devenir un Tchétchène, de devenir un Palestinien, de devenir un Israélien, de devenir un Afghan. Et d'essayer de rentrer, de chausser leurs chaussures et de comprendre leur combat.
Mais êtes-vous vraiment libre? Parce que vous êtes aussi quelqu'un qui est très généreux. Vous avez fait un film qui s'intitule « Rapporteur de guerre » où vous interviewez plusieurs reporters de guerre de différentes nationalités et qui ont couvert différents fronts de guerre. Et vous faites observer à juste titre, Patrick Chauvel, que les gouvernements... essaye d'encadrer le plus serré possible votre profession. On se souvient de la guerre du Golfe où l'armée américaine avait « embedded », je crois que c'est le terme exact, qui était utilisé, c'est-à-dire pris avec eux les reporters de guerre. Alors comment fait-on pour essayer d'être toujours libre au moment où on veut faire son métier, mais où la pression politique des gouvernements sait très bien que les médias sont l'instrument pour... éveiller les consciences, bien plus que vous.
Alors déjà, c'est une médaille, c'est une décoration, le fait que les armées et les gouvernements essaient de nous empêcher de travailler, parce que ça veut dire qu'on est efficace. Si on se pose la question, Est-ce que ça sert à quelque chose? C'est souvent la question que les gens me posent. Est-ce que tes photos servent à quelque chose? Parce que certaines sont insupportables. J'ai dit, ben, la preuve qu'elles servent à quelque chose. Sans ça, pourquoi ils s'emmerderaient à essayer de nous empêcher de bosser? Donc c'est déjà un compliment qu'on essaye de nous bloquer. Après, ça a plus ou moins marché, parce que ça marche jamais. De toute façon, il y a des reporters partout. Il y a des jeunes, il y en a plein là aujourd'hui qui démarrent, qui ont une telle envie que personne ne les arrêtera, personne. Vous pouvez peut-être fermer la porte, ils vont rentrer par la fenêtre. Et Luc Delahaye et d'autres photographes, essentiellement français, à ce moment-là avaient créé un mouvement qui s'appelait les FTP, Fact Pool. Et donc ils ont peint leur voiture en kaki avec de la boue. Il y en a même un qui s'appelle Van Smith, qui est un ancien soldat anglais, qui était, je crois, lieutenant-colonel dans l'armée anglaise avant d'être caméraman, qui a remis son uniforme. Et ils se sont débrouillés pour passer hors embedment. D'ailleurs, c'est là où il y a eu le plus de morts, évidemment, parce que vous êtes plus en danger, parce que vous n'appartenez à aucun camp dans ces cas-là. Mais c'est impossible d'empêcher quelqu'un de travailler. Rémi Ourdan était planqué à l'hôtel à Bagdad, alors qu'ils avaient viré tous les journalistes, ils avaient réussi à se planquer à l'endroit où il y avait justement tous les espions du gouvernement. Ils le cherchaient partout, sauf à l'endroit où ils étaient tous. Et le soir, il sortait son satellite pour envoyer ses papiers, et Van der Stok remontait avec les troupes américaines qui allaient vers Bagdad, et ils se parlaient, Rémi Ourdan et Van der Stok. Et à un moment donné, Rémi Ourdan s'est dirigé vers la banlieue, à pied, et il est tombé nez à nez avec Van der Stok et les soldats américains. Et le colonel américain leur a dit, mais vous avez rencontré beaucoup de résistance. Et Rémi a dit, non, il n'y a personne entre moi et le centre-ville. Et du coup, le colonel américain a lancé l'assaut, parce que Rémi a rejoint son copain photographe. Donc, il y a un embedment, mais on est toujours embedded de toute façon. Moi, quand je pars avec les Afghans, avec les gens de Massoud, par exemple, ben, je dors avec eux, je mange avec eux, je suis avec eux. Ce n'est pas officiel, mais je suis avec eux. Quand je suis avec les Cambodgiens, les Vietnamiens, l'armée israélienne ou les Palestiniens, ben, je dors avec eux, je vis avec eux, j'écoute leurs histoires. On est toujours embedded. C'est un mot qui a été inventé je ne sais pas quand. Quand on était au Vietnam, où la presse était très très libre de travailler, on était quand même en uniforme. C'était obligatoire, il fallait avoir l'uniforme américain en patrouille avec les Américains. On était embedded déjà. On est toujours embedded, on est toujours avec un camp ou l'autre.
Mais justement, choisit-on son camp avant de partir, ou est-ce que les situations qu'on vit et les difficultés qu'on traverse vont vous façonner votre propre rapport au monde et vont vous donner un avis, entre guillemets, politique sur ce que vous êtes en train de couvrir, Patrick Chauvel?
On part toujours avec un a priori et avec ce qu'on a...
Vous êtes plutôt du côté de ceux qui sont attaqués, hein, quasi systématiquement.
Bah, si possible. Mais là, par exemple, en Syrie, c'est pas le cas. Je ne vais pas être du côté de Daesh. Pourtant, c'est Daesh qui est attaqué par la force multinationale.
Alors, comment on fait quand on vit ce genre de situation, alors?
Ben, c'est très différent, parce que c'est quand même la première fois. Hein, un des derniers reportages que j'ai fait, c'était la Syrie, la chute de Baghouz, donc il y a quelques mois. C'est différent. D'abord, c'est des Français qui sont en face de moi. Des Français de Daesh. C'est des gens qui veulent ma mort. C'est des gens qui veulent détruire ma façon de vivre. Donc, c'est mon ennemi aussi. Ça, c'était jamais arrivé. Ça, c'est arrivé en Irak et en Syrie. C'est la première fois que l'ennemi est aussi le mien. Donc là, ça change la donne. Donc ça met une espèce de colère, de rage. Et puis, ce sont aussi des gens qui ne désirent pas survivre. C'est-à-dire qu'en face, j'ai une armée de kamikazes en face, dont une partie sont français. C'est très très différent. Donc d'un seul coup, ça pose problème. C'est-à-dire que d'un seul coup, on n'est plus du tout impartial. Je suis complètement d'accord avec ce que fait la force multinationale. Même, c'est très compliqué. C'est une sale situation, parce que il y a les civils qui sont pris en otage par leur propre mari. Hein. C'est ce qui s'est passé à Baghouz, c'est que les gens de Daesh mettaient leurs femmes et leurs enfants en surface et eux, ils étaient dans les tunnels. Et ils filmaient après les résultats des bombardements. Donc ils provoquent, et ensuite ils filment la provocation en disant que c'est nous qui avons provoqué. Donc ça met très en colère, et c'est c'est un vrai travail d'essayer de retrouver sa situation de journaliste, pour le coup. Et c'est un des seuls conflits où on peut pas aller de l'autre côté. Parce qu'en général, par exemple, au Salvador, en Afghanistan, on peut aller avec l'armée américaine, on pouvait aller avec les Moudjahidines à une époque, en tout cas. On pouvait changer de camp, ou en tout cas savoir qu'un collègue était en face. Mais depuis qu'il y a Daesh, enfin ISIS, enfin je sais plus comment on dit, il y a différents termes pour cette secte de dingue. Il y a en Irak et en Afghanistan et en Syrie, on ne peut pas aller en face. Sans ça, on va se retrouver en pyjama orange, quoi. Et donc ça complique les choses parce que c'est vu que d'un seul côté. Et notre métier, comme il y avait une note de service de Lazarev quand j'ai travaillé à François, c'était le point et le contrepoint. C'est l'exigence du journalisme. Là, on peut pas. On est orphelin d'une partie du conflit. Alors j'ai parlé à des prisonniers de Daesh, des hommes et des femmes, mais ils étaient tellement dans la doctrine de la haine contre nous, c'était difficile, quoi. Il y a quand même une femme voilée qui m'a engueulé parce qu'elle me disait « le droit à l'image ». Donc, je savais même pas qui me parlait au milieu de tout.
On en reste muet, effectivement. Mais là, dans ce cadre-là, lors de votre dernière mission, Patrick Chauvel, votre statut, votre fonction, votre existence même, se justifie-t-elle parce que vous avez l'intention d'éveiller, évidemment, et de nous informer sur ce qui est en train de se passer, mais est-ce que vous avez aussi l'ambition d'essayer d'ébranler les consciences des politiques et de leur parler, de leur faire mieux comprendre, puisque vous venez de les vivre, ces situations-là?
Ébranler leur conscience, en tout cas faire un petit bruit, comme me disait un photographe israélien, Mickey Kratzman, je lui disais, est-ce que ça sert à quelque chose que tu fais? Il me disait, ce que je veux faire, c'est un petit bruit dans l'oreille des politiques pour qu'ils puissent les empêcher de dormir, quoi. Qu'ils puissent pas dire, on savait pas. En fait, c'est ça. C'est-à-dire, après, est-ce que je vais changer la politique, mais on travaille pas forcément pour la victoire. Je crois que c'est, on travaille pour travailler, c'est-à-dire que on travaille pas que pour la presse, on travaille aussi pour la mémoire collective, pour plus tard, pour que les gens soient responsables de ce qu'ils ont fait. Le TPI l'a bien prouvé qu'à un moment donné, avec les témoignages radio, télévision, écrits, photos, qui ont servi au TPI pour condamner les gens, des années plus tard, c'est vrai que ça a pris du temps, mais ça s'est fait. Une espèce de Nuremberg en permanence. Je pense que c'est important, oui.
Donc l'acte photographique constitue un élément essentiel pour pouvoir faire le procès de ceux qui sont responsables.
Et puis comprendre aussi, parce qu'une...
Et documenter,
il y a un peuple qui...
Et contredire les propos des criminels.
Voilà, exactement. C'est-à-dire que d'un seul coup, voilà, la preuve est là. Il y a le son de Mladic qui dit « écrasez-les sous les bombes ». C'est un son qui a été enregistré. Oui, on est aussi des sentinelles et des témoins. On travaille pas que pour la presse, c'est bien, ça nous permet de dans l'immédiat, mais il y a plein de photos que je fais que je ne montrerai jamais à la presse, que je montrerai plus tard, dans 10 ans, pour montrer ce que la guerre fait aux hommes.
Mais
par
que
exemple.
Vous pouvez donner au tribunal pénal international.
Par exemple.
Alors je voudrais parler de votre générosité, Patrick Chauvel, et de votre côté historien de la photographie. Vous avez publié un livre qui s'intitule « Ceux du Nord », et pour la première fois, effectivement, on apprend la vie, l'engagement, le courage, la détermination de ces reporters photographiques qui ont documenté la guerre du Vietnam et vous ressuscitez les mémoires et donc une autre histoire de la guerre du Vietnam.
Alors, pendant la guerre du Vietnam, il y avait des bombardements au napalm, comme disaient les Américains, c'était pour assouplir l'ennemi. Et c'était tellement puissant
assouplir.
Que...
Assouplir
C'est un... Soften the enemy.
Ah là là, quel terme, hein.
L'adoucir, on va dire. Avant de monter à l'assaut, ils envoyaient du napalm sur la colline à qui était l'objectif. Et quelquefois, on avait du mal à respirer. C'est-à-dire, même à 1 kilomètre, l'air brûlé par le napalm, on manquait d'air. Et je me disais, avec mes copains photographes de l'époque, Larry Burroughs, Henri Huette et tout ça, qui ont tous été tués là-bas, on se disait, mais s'il y a des photographes en France, comment ils font? Et en fait, arrivé à Saigon, on buvait des bières dans les bars. Ça, c'était la deuxième partie de la guerre, les bars. Et on disait à ceux du Nord, à nos collègues d'en face, on buvait des bières. Et il y a 3-4 ans, j'ai été invité par le Centre culturel français à Hanoï pour parler de la guerre, faire une expo sur la guerre. Et à ce moment-là, j'en ai profité, parce que les Vietnamiens, évidemment, étaient là, à demander aux officiels vietnamiens si je pouvais rencontrer mes collègues d'en face, finalement. Et ils m'ont présenté 5 hommes âgés, absolument formidables. Et je faisais une discussion, j'étais sur une estrade, et à un moment donné, je leur ai dit, non mais attendez, moi je suis mal placé pour parler de cette guerre, c'est la vôtre. Moi je n'ai vécu que la deuxième partie, la guerre du Vietnam, et en plus, on dit toujours que les guerres sont racontées par ceux qui ont gagné la guerre. Or là, c'est pas vrai. La guerre du Vietnam a été racontée par les vaincus. Enfin, j'aime pas ce mot, mais bon, les Français, les Américains, on l'a pas gagnée en tout cas, celle-là. Et c'est nous qui avons raconté cette guerre avec nos photos. C'est pas eux. Parce qu'en fait, leurs photos, elles ont été publiées à Berlin-Est, à Moscou et à Prague. Mais il y avait le mur à l'époque. Et quand le mur est tombé, tout le monde s'en foutait de la guerre du Vietnam. Donc ils m'ont amené chez eux. Alors la première fois, c'était un photographe qui m'a amené chez lui. Et je lui ai dit, je peux voir tes photos. Et je filmais, parce que je documente tout, si possible. Et je me suis retrouvé dans mon cadre avec une énorme paire de fesses. Et donc j'étais un peu surpris, donc j'ai enlevé l'œil de l'œilleton, et en fait c'était sa femme qui dormait nue, et il avait soulevé la natte, parce que ses photos de guerre étaient sous le matelas. Donc ça a commencé par les photos des fesses de sa femme vieillissante, mais pourquoi pas. Et il m'a sorti des photos incroyables, magnifiques. Alors c'est beaucoup de photos de propagande, mais pendant les combats. Et je lui ai fait remarquer que certains soldats souriaient sur les photos. Je dis, donc c'est une photo montée. Ils me disent, non, pas du tout, c'est au combat. Mais comme ces types sont partis depuis 2 ans de chez eux, et qu'ils savent qu'ils vont être dans le journal, ils sourient à la caméra pour rassurer leur famille, c'est tout. Et on a découvert le travail de ces photographes, donc j'ai dit, il faut absolument en parler, il faut absolument montrer ce travail. Donc, avec Florent Massot, mon éditeur, et les Arènes, on a décidé de publier ce livre. Et ensuite, Jean-François Leroy du festival de Perpignan les a invités.
Visa pour l'image.
Visa pour l'image. Et ça, c'était extraordinaire parce qu'ils sont venus à 5. Il y a eu une ovation pendant la projection. Tout le monde était en larmes, enfin eux surtout. Et ils ont dit, on aurait dû faire ça plus tôt.
Alors, on va terminer cette émission, Patrick Chauvel, par une photographie. Une parmi les milliers que vous avez prises dans tout l'univers sur les fronts de guerre. Mais cette photographie parle de la guerre. Et je vais raconter aux auditeurs ce qui s'est vraiment passé tout à l'heure quand je suis arrivée à la maison de la radio et que j'ai salué mes copines qui sont dans le hall de la radio et qui sont les hôtesses, charmantes au demeurant. Elles m'ont donné un carton avec une photo. Cette photo représente un tank avec des immeubles détruits, une rue complètement morcelée, et une petite fille en rouge sur un des tanks, c'est manifestement juste après une offensive de guerre. Et quand j'ai retourné la photographie, c'était marqué « Patrick Chauvel, 50 ans sur le front, exposition à Radio France ». Et je vous jure, je ne savais pas. On vous attend depuis des mois pour être en direct à l'heure bleue. Pouvez-vous nous raconter les circonstances de cette magnifique photo qui ouvre cette rétrospective, donc aussi à la Maison de la Radio ?
Alors en fait, c'est une double situation. Les combats se sont un peu ralentis. Il y a eu un petit moment de calme entre deux offensives à Grozny, en Tchétchénie, en 96. Il y a un tank russe détruit. Et il y a un russe qu'on ne voit pas sur cette photo qui est assis devant le tank, qui est complètement bourré et qui boit de la vodka en canette. Et je m'approche de lui. J'ai donc un traducteur. Je filme et je lui dis « Qu'est-ce que vous faites là ?» Il me dit « Mon fils, j'ai appris que mon fils avait été tué. J'ai fait le voyage en train. J'ai trouvé le tank, parce qu'il y a un numéro sur le char dans lequel il avait été tué. Il est mort carbonisé à l'intérieur de ce char. C'est sa tombe. Donc je me saoule la gueule en son souvenir. » Et les Tchétchènes qui étaient avec moi m'ont dit « Tu as fini l'interview ?» Je dis « Non, j'ai encore un petit peu de temps. Pourquoi ?» Ils m'ont dit « Parce qu'après on va le flinguer. » J'ai dit, mais pourquoi vous voulez tuer ce type? C'est un civil. qui pleure son fils. Il me dit, oui, mais son fils est un assassin. La maison que tu vois devant le char a été détruite par ce char qui a tiré sur la maison et ma femme et mes enfants sont morts dedans. Et il est le fils d'un assassin. Donc j'ai essayé de prolonger l'interview pour ce pauvre type bourré qui était triste. Et ce qui était extraordinaire, c'est qu'il y avait deux situations. Il y avait une petite fille sur les chenilles défaites du char qui dansait en vert fluo. Et sur le tank, cette petite fille, genre chaperon rouge, qui pose, comme ça, avec la main sur le menton, qui a l'air de se demander ce qu'on est en train de faire, en fait. Et qui est complètement décalée.
Ben, merci infiniment, Patrick Chauvel. Donc, je rappelle que cette exposition s'ouvre la semaine prochaine. On pourra y voir votre travail photographique. Et je rappelle aussi, donc, ce magnifique livre intitulé « Ceux du Nord » qui vient de paraître aux éditions des Arènes et puis vos deux livres. Merci infiniment.
Le silence a disparu. Ça me fait aussi peur que le vacarme. Aussi loin que je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens plus. Je t'attends sur le coin d'une rue. Je sens le métro qui gronde sous mes pas. Pourquoi tu purges ma peine, je me souviens plus. Aussi loin que je me souviens, je me soutiens plus. Ah ouais, ces maudites paroles. Montrer les dents, montrer les âmes. On s'aime aussi bien qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime, qu'on s'aime. Ça dépend de la conjoncture. Je fais le point sur les soutiens, je recolle les petits bouts, toi. Les petits bouts de toi qui traînent par-ci, par-là. Maman, 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 ce moment j'ai mal. Comment qu'on fait, comment qu'on soigne. Ouais, dis à l'pou qui va plus. J'ai le cœur, poids plume. Dis-moi, je t'aimerais si tu m'aimes plus. Promis, je t'aimerais si tu m'aimes plus. J'ai le cœur, poids plume. Le cœur, poids plume. Le cœur, poids plume. Le cœur.
C'est avec Hervé que nous allons nous quitter, cœur, poids, plume, non sans remercier Mathias Alléon qui était à la technique ce soir, Élodie Royer, Adrien Nazelli et Louise Douillet, Jean-Baptiste Dibert pour ses conseils musicaux, et Lilian Alôme qui a réalisé comme chaque soir cette émission. Et après le prochain journal d'information, vous avez rendez-vous avec l'ami Mishka pour son Very Good Trip. Êtes-vous blues, soul, folk? Eh bien, il y en a pour tous les trois ce soir.